8h10. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, de 10h05 à 11h sur Radio Cap.
Bien. Que faire pour éliminer la fistule obstétricale en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Vous savez, en RDC, on estime à environ 5 000 à 7 000 nouveaux cas de fistules obstétricales chaque année. Par suite d'accouchements difficiles, certaines femmes se retrouvent avec une connexion anormale entre les voies vaginales et anales. Ne pouvant plus retenir les urines, elles se retrouvent soudainement marginalisées. Et seul face au défi, c'est dans ces contextes que le Fonds des Nations Unies pour la Population ainsi que d'autres partenaires ont décidé de lancer depuis 2003 la campagne mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Alors quels sont les progrès enregistrés vers l'élimination de la fistule? D'abord, c'est quoi la fistule? Eh bien, nous aurons les détails tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit des docteurs Abiti Vilanda, chargé des programmes santé de la reproduction au Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA. En sigle, docteur Abiti Vilanda, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui de la fistule obstétricale. D'abord, c'est quoi la fistule? Aidez-nous à comprendre qu'est-ce qu'est la fistule obstétricale.
Oui. Pour moi, je peux dire que la fistule obstétricale est une communication anormale entre les voies génitales de la femme et ses voies urinaires. Et cette communication survient suite à un accouchement difficile et prolongé et entraîne ainsi des écoulements urinaires permanents qui ne sont plus contrôlés par la victime et qu'on appelle incontinence urinaire.
Comment est-ce que cet accouchement difficile arrive à créer cette communication anormale?
Oui, en fait, c'est lorsque le mobile fœtal, donc le bébé, descend, sa tête comprime le bassin de la femme. Et lorsqu'elle comprime, il s'ensuit une...
Déchirure.
Il s'ensuit une insuffisance d'irrigation sanguine au niveau des tissus mous de la vessie et au niveau des tissus vaginaux. Et cela crée une mortification des tissus qui, lorsqu'ils seront éliminés, crée cette communication entre les deux voies. Et dans certains cas, cette communication peut se faire entre les voies vaginales et le rectum, ce qui fait que la sortie sera faite par des matières fécales qui vont sortir au niveau des voies génitales, et cela met la femme dans une situation très inconfortable.
Voilà, donc on peut dire que cela arrive souvent lors d'un accouchement difficile. Est-ce qu'on peut dire aussi que pendant les viols qu'on a eu par exemple à l'est du pays ou dans certaines autres parties du pays, ça peut aussi être parmi les causes?
Oui, les viols peuvent être une cause de fistule, mais pas en majorité. Dans le cas d'une violence, nous n'avons que 1% des cas de violence sexuelle qui causent une fistule obstétricale. Ce sont des violences sexuelles suivies de traumatismes, d'introduction d'objets tranchants, d'armes à feu au niveau du vagin. Et ce n'est que là, on estime cette proportion à 1%. La majorité des cas, c'est dû à cet accouchement difficile et prolongé qui se fait sans l'assistance d'un personnel qualifié, qui sont les sages-femmes, les obstétriciens et les médecins généralistes qui sont bien formés. Sans cette assistance, l'accouchement qui est difficile et prolongé n'est pas dirigé, il n'y a pas de soins adéquats, peut conduire à cette fistule obstétricale.
Alors, d'après les données que nous avons, on estime à environ 5 000 à 7 000 nouveaux cas de fistules chaque année à RDC. C'est quand même beaucoup, docteur.
Oui, c'est beaucoup. Donc, chaque année, nous avons, on enregistre environ 5 000 à 7 000 nouveaux cas de fistules obstétricales. Et un grand nombre de ces femmes qui sont atteintes par cette pathologie ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate et demeurent ainsi avec cette fistule obstétricale abandonnée à elle-même. Il faut savoir que la fistule obstétricale entraîne des écoulements urinaires permanents que la femme ne sait pas contrôler.
Et elle ne sait plus retenir ses urines.
Elle ne sait plus retenir l'émission de ses urines. Mmh. Et cet écoulement permanent la marque par une odeur d'urine,
oui,
qu'elle vit avec au quotidien. Et ça la gêne d'abord,
oui,
elle-même
oui.
Et ça gêne aussi son entourage.
Oui, bien sûr.
Oui, et à la longue, son entourage la rejette, son mari la rejette, la famille la rejette, les communautés la rejettent.
Et on la traite même des sorcières.
Elle est stigmatisée, elle est discriminée et elle vit avec ce sentiment de frustration et d'isolement qui font qu'elle ne sait plus quoi faire et elle se replie sur elle-même. Et dans plusieurs villages, vous allez voir que ces femmes sont vivent éloignées de la communauté. On les a reléguées, on ne veut plus s'occuper d'elles, on ne veut plus avoir affaire à elles. Et suivant nos croyances culturelles, mmh, spirituelles, on les traite de sorcières ou de femmes maudites.
Donc, il semble qu'il y a des femmes qui ont été abandonnées même par leur mari
à cause
de cela.
Oui, donc une femme qui sent les urines chaque jour, elle a des écoulements à tout moment dans le lit, les maris ne supportent pas et à la longue la rejettent et même la répudient. Et la chasse, on ne l'accepte pas dans sa famille, on ne l'accepte pas partout parce qu'on croit que c'est une malédiction ou bien que cette femme est sorcière. Alors qu'il s'agit d'une maladie normale qui a été causée par un accouchement qui a été difficile et qui a entraîné cela. Mmh. Et nous avons aussi des causes sous-jacentes, les causes sous-jacentes qui entraînent cela.
Oui, lesquelles?
Oui, nous avons le non-accès des femmes aux formations sanitaires qui offrent le paquet adéquat pour la prise en charge de ces complications obstétricales. Nous avons la faible disponibilité de services de planification familiale et la faible utilisation par la population. Nous avons le mariage précoce et les grossesses précoces qui sont des facteurs qui contribuent à l'apparition de ces fistules obstétricales.
Mmh. Voilà, donc ce sont là les autres causes. Mais généralement, les femmes, quand elles sont pendant la période de grossesse, elles vont à ce qu'on appelle un CPN. Mmh. Chaque fois, est-ce que au niveau des CPN, on ne peut pas savoir que l'accouchement pourrait être difficile ou pas et prendre les dispositions nécessaires?
Oui, les CPN sont des services qui aident à améliorer la santé maternelle. Hein, lorsque la femme est enceinte,
les
consultations prénatales, on voit l'état, l'évolution de sa grossesse et tout. Mais il y a des complications qui surviennent lors du travail, qui n'ont pas été prévisibles lors des CPN. Ces complications-là surviennent sur la table d'accouchement. Il n'y a qu'un personnel qualifié qui peut diriger et prendre en charge ces complications pour que la femme soit sauvée. Nous savons qu'ici en RDC, nous avons un grand nombre de décès maternels. On parle de 2 à 3 femmes qui meurent chaque heure en RDC. Et ces femmes meurent suite à l'absence de services adéquats pour la prise en charge de ces complications obstétricales.
Il y a des personnels qualifiés, il semblait-il.
Oui, oui. Des personnels qualifiés, et vu qu'il n'y a pas de service adéquat pour la prise en charge de ces complications obstétricales, ces femmes-là meurent ou soit survivent avec une complication invalidante telle que la fistule obstétricale. Oui. Et vu cela, on ne peut pas dire que c'est une situation irréversible. Non, c'est une situation guérissable.
Oui.
C'est une maladie qui peut être guérie.
Ce n'est pas de la sorcellerie.
Ce n'est pas de la sorcellerie. Elle peut être guérie.
Ou la malédiction.
Si la femme est orientée vers un service où on peut lui offrir une prise en charge adéquate.
Mmh.
Et en RDC, ici, nous avons l'UNIFPIE travaille en partenariat avec le gouvernement, mmh, la société civile, les ONG et aussi le secteur privé pour la prévention de ces fistules et pour la prise en charge holistique de ces femmes survivantes de fistules obstétricales. Cette prise en charge holistique consiste à un traitement chirurgical,
mmh,
avec un suivi post-op et puis une assistance psychosociale, psychologique,
mmh,
et aussi
elles en ont besoin.
Oui, une prise en charge pour la réinsertion socio-économique.
Elles
ont vraiment besoin d'une prise en charge, d'une assistance psychologique, parce que ces femmes-là sont traumatisées sur le plan psychologique.
Oui, j'imagine
elles
la
ont
souffrance.
Été rejetées, elles ont été stigmatisées et tout. Ça a créé en eux des perturbations mentales. Donc, cette assistance est nécessaire.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la fistule obstétricale, comment l'éliminer en République démocratique du Congo. Vous avez des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes, le standard est ouvert. Composez le 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Bien, merci de nous rejoindre sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous parlons aujourd'hui de l'élimination de la fistule obstétricale en RDC. Vous savez, le 23 mai de chaque année, le monde a célébré la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale afin d'intensifier les mesures et efforts visant à éradiquer ce fléau. Cette année, la journée a été célébrée sous le thème « La fistule obstétricale est une violation des droits humains ». Finissons-en maintenant. Donc, docteur, pourquoi on dit que c'est une violation des droits humains?
Oui, on parle d'une violation des droits humains parce que la fistule obstétricale est une atteinte à la dignité de la femme. Et c'est une maladie qui entraîne une stigmatisation et une discrimination de la femme. Toute personne doit bénéficier des soins dont elle a besoin pour vivre, pour avoir un bien-être acceptable. Mais cette femme-là ne vit plus.
Elle a perdu sa dignité.
Oui, elle a perdu sa dignité. Mmh. Elle vit une vie sociale néfaste avec des conséquences néfastes sur le plan de sa santé physique et mentale. Il y a une violation de ses droits. Elle ne peut plus jouir pleinement de sa vie sexuelle et reproductive. Elle ne peut plus jouir pleinement de sa vie quotidienne avec son environnement. Elle est discriminée. Toute forme de discrimination. Elle est humiliée. Elle est rejetée. Donc c'est une atteinte à ses droits. Donc la fistule constitue une atteinte à la dignité de la femme, et une atteinte à ses droits.
Alors, l'UNFPA ainsi que d'autres partenaires ont lancé depuis 2003 la campagne mondiale pour l'élimination de la fistule. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
La campagne mondiale a été lancée en 2003 et en RDC, la campagne a été lancée en 2006.
Donc, en partenariat avec le gouvernement.
Oui, en partenariat avec le gouvernement. Et ces campagnes sont organisées chaque année pour parvenir à couvrir un certain nombre de provinces dans la prise en charge holistique de ces femmes victimes survivantes de la fistule obstétricale. Actuellement, nous allons à la 8e ou 9e campagne.
Okay.
Et nous visons à couvrir 13 provinces. 13 provinces pour la réparation d'au moins 1500 cas. Okay. Mais il faut savoir que les ressources sont limitées et insuffisantes. Et l'UNIFPA, dans son mandat, organise aussi la mobilisation de ressources pour la prise en charge holistique de ces.
Il semble que la prise en charge coûte cher de la fistule.
Des survivants de fistule obstétricale.
Mmh, oui.
Et dans cette mobilisation de ressources, elle prévoit un cas, la prise en charge pour un cas de fistule s'élève à $500.
$500 pour un cas de réparation.
Un cas de réparation. Mmh. Et si on vise...
C'est quand même cher, surtout pour ces femmes qui se retrouvent en milieu, rural.
Oui, bon, on peut pas... C'est une intervention. Ce paquet de prise en charge est quand même cher parce que ce sont des interventions. C'est une intervention chirurgicale hautement spécialisée. Et ailleurs, dans d'autres structures où... ces services sont offerts, mm-hmm. c'est plus que $500. Et dans les $500, nous avons toute la prise en charge de cette femme, même son hospitalisation dans la formation qui va la prendre en charge. Mm-hmm. Donc, ce coût est quand même, relève quand même d'une situation humanitaire et on peut quand même se permettre de payer $500 pour qu'une femme puisse retrouver son sourire et sa dignité. Donc, l'UNIFPA sait que le nombre est élevé. Donc, il y a un grand nombre de cas qu'il faut réparer sur toute l'étendue du pays et les ressources sont insuffisantes. Donc, il s'attelle aussi à la mobilisation de ressources à tous les niveaux. Mmh. Et dans ce cadre-là, il organise des soirées de gala. Cette année, nous allons organiser une autre soirée de gala et de solidarité en faveur de ces femmes survivantes de fistules obstétricales, et cela en collaboration avec l'ambassade du Canada et de la Tunisie, sous le parrainage de la Première Dame de la République démocratique du Congo. Et ce gala de solidarité a pour but de faire une levée de fonds qui va permettre de couvrir toutes ces 13 provinces prévu pour la campagne de cette année.
Mmh. Et 13 sur 26, pourquoi?
Sur 26. Nous allons progressivement. Oui. L'année passée, nous avons pu mobiliser, lors du gala, nous avons pu mobiliser des fonds qui ont permis une réparation de plus de 900 cas. Et c'était à travers 8 provinces. Et cette année, nous faisons 13 provinces supplémentaires.
13 autres provinces.
Oui, avec, on a estimé à au moins 1500 cas
des femmes qui doivent être réparées.
À atteindre. Donc ça peut aller au-delà de 1500, mais on se dit que le minimum, ça sera 1500 cas.
1500 cas. On va accueillir les auditeurs. Nous parlons de l'élimination de la fistule obstétricale en République démocratique du Congo avec Dr Abeti Bilanda, chargée de programme santé de la reproduction à l'UNFPA. Symphorien, vous êtes à Kananga. Kachai nous appelle des Kanyoka, au Kasaï Central. Et Bindou Maombi est à Masisi. Symphorien, bonjour. Et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour, monsieur Jody, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi. J'ai une préoccupation.
Laquelle?
Par rapport au sujet. Je voulais d'abord savoir, nous remarquons que, au niveau de, même de, chez les hommes, il y a certains hommes qui ne savent pas se contenir, donc contenir leurs identités. Notre invité, en tant que spécialiste en la matière, peut un peu nous indiquer c'est une autre maladie ou ça, c'est toujours la fistule obstétricale. Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport à la prise en charge de ces cas. Je ne sais pas les actions que l'INFPA est en train de mener par rapport à cette maladie. C'est limite seulement dans la capitale où ces actions s'étendent même sur toute l'étendue de la
République. Symphorien, l'invité a parlé des 13 provinces qui seront touchées. Donc c'est pas seulement la capitale qui est concernée.
Dans les 13 provinces, est-ce qu'il y a notre province du Kasaï Central?
D'accord, elle va répondre tout à l'heure.
D'accord.
Merci. Kachai, vous êtes à Kanyoka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Et bonjour à madame l'invitée.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Avant de passer à la préoccupation, je donne ce cas de témoignage à madame pour qu'elle puisse apprécier d'abord et ensuite la préoccupation viendra. J'ai causé avec une maman qui vient de donner naissance, qui n'avait pas suivi normalement la CPN, donc consultation prénatale. Mmh. C'est seulement lorsque la grossesse avait atteint 9 mois qu'elle s'est rendue au centre de santé. Et lorsqu'elle est arrivée, le médecin lui a dit, « Madame, tu es venue pour suivre la consultation prénatale ou soit pour accoucher ?» Madame répond, « Non, je suis venue suivre la consultation prénatale. » Le docteur lui dit, « Non, non, c'est déjà là l'accouchement. monte sur le lit et tu vas t'accoucher. Alors, mais il y a eu des complications parce que pour le médecin, des complications sont dues au seul fait que madame ne suivait pas la consultation prénatale. Elle est venue tout simplement pendant que la grossesse était au terme. Elle s'est accouchée. Il y a eu des déchirures, une hémorragie. Et ça même demandait l'intervention des autres médecins. Mmh. Et à cela, le médecin a commencé à tonner. Il a même giflé le mari de la femme. Et au moment où je vous parle, la femme est dans un état critique dans un autre hôpital où elle était transférée. Mmh. Alors quand j'ai causé avec elle, elle me dit que c'est moi qui suis à la base de cette situation parce que je n'avais pas bien suivi la consultation prénatale.
Qui est à la base? C'est vous, Kachai, ou c'est elle-même?
Non, monsieur Jody, moi je ne suis pas une femme pour aller m'accoucher, donc je parle de cette dame-là,
oui.
Qui me parlait de sa situation lorsque j'étais parti au centre
d'accord.
De santé là.
Donc vous dites que la femme, elle reconnaît qu'elle est à la base, elle-même à la base de cette situation, d'accord.
Elle-même me dit non, oui. Monsieur Katiaï, elle me dit non, monsieur Katiaï, en tout cas c'est moi qui suis à la base de cette situation, parce que n'ayant pas suivi la consultation prénatale. Alors, à cela, je vais tout simplement demander à madame, avant que je ne pose la question, à ce qu'elle puisse donner un conseil à toutes ces mamans qui sont enceintes, qui ne veulent pas suivre la consultation prénatale, de suivre parce que ça va de leur intérêt et ça préserve la vie, non seulement d'elle-même, et aussi de l'enfant.
Kachai, est-ce que cette femme s'est retrouvée avec une fistule?
Oui, elle s'est retrouvée avec ça. C'est pourquoi on l'avait transférée dans un hôpital de la place, l'hôpital général de référence,
oui.
Où elle sera prise en charge, mais je ne sais pas comment la prise en charge va se faire parce que ça a demandé beaucoup d'argent. La famille, c'est une famille
pauvre.
Démunie, pauvre, qui ne sait pas d'abord subvenir aux besoins de la vie du ménage. Mais je ne sais pas comment elle va prendre en charge la dame qui est hospitalisée pour les moments. Pour les moments, voulais-je dire.
Mmh. Merci. Alors, merci. Alors, une autre question.
Maintenant, je vous. Oui, une autre question, c'est pour demander maintenant à madame. Alors, parce que j'ai suivi dans le parler de la femme, elle me dit que le docteur lui a dit qu'il y a moyen qu'elle ne puisse pas continuer à donner naissance s'il arriverait qu'elle sera prise en charge pour le cas de fistule obstétricale. Alors, moi, je demande maintenant à madame, est-ce que cette situation-là peut entraîner l'arrêt de naissance chez une maman qui a connu des cas pareils?
D'accord.
Elle ne sera pas encore à même de donner naissance. C'est une stérilisation forcée ou soit une stérilité médicale tolérée. Merci beaucoup.
D'accord. Kacha, j'imagine que vous êtes infirmier ou un personnel médical?
Non, je ne suis pas infirmier ni personne médicale, monsieur Jody.
D'accord.
Je suis citoyen congolais.
Qui s'intéresse
à tout moment. Qui s'intéresse à la situation du pays, voilà.
D'accord, merci. On va accueillir Bindou Maumbi, qui nous appelle des Massissi. Bindou, bonjour. Bindou, vous êtes là? Voilà, il n'est plus là, il va certainement nous rappeler. Docteur Abeti, vous avez la parole.
Oui. Merci pour la parole. Donc, je retiens que j'ai deux questions, deux préoccupations.
Mmh.
Ici, incontinence urinaire chez l'homme, est-ce une fistule? Non.
On ne parle pas de fistule.
On ne parle pas de fistule obstétricale chez les hommes.
Mmh.
Donc l'incontinence urinaire chez les hommes peut arriver, mais il s'agit d'une autre maladie autre que la fistule obstétricale. Pour cela, il doit consulter un urologue qui va l'examiner et voir pourquoi, à quoi cela est dû,
mmh.
Et lui administrer un traitement. En ce qui concerne les provinces qui seront touchées, oui, nous avons le Kasaï central.
Mmh.
Le Kasaï central
parmi les 13 provinces
sera touché par
cette campagne.
Mmh. Et s'il y a des cas, vous pouvez déjà les orienter vers l'hôpital général de référence. Ce sera l'hôpital Saint-Joseph à Kananga, et qui va assurer la prise en charge. Et s'il y a
des cas, on peut déjà les envoyer là-bas.
Les envoyer. S'ils ne connaissent pas l'hôpital, ils peuvent contacter la DPS qui va les orienter.
Mmh. Et c'est gratuit, l'enregistrement est gratuit.
Oui,
on ne paye rien.
Oui.
Même ils la prise en charge.
Oui, ils vont, on les enregistre et lorsque la campagne va commencer, oui, ces fameux après examination. On verra si c'est vraiment une fistule obstétricale et si le diagnostic est posé affirmatif, elles pourront être parmi celles qui vont bénéficier d'une prise en charge.
Katia, il veut savoir si la fistule peut entraîner la stérilité, la fistule obstétricale peut entraîner la stérilité chez la femme.
En tout cas, la fistule obstétricale n'entraîne pas la stérilité chez la femme. Plusieurs femmes qui ont bénéficié d'une réparation chirurgicale adéquate se sont retrouvées enceintes après 2 ans et après un bon suivi de la part de leur médecin. Donc, on ne peut pas dire que la fistule obstétricale entraîne une stérilité. Peut-être chez les femmes qui ont eu d'autres complications qui sont survenues lorsqu'elles ont eu cette fistule obstétricale, il peut s'en suivre un problème de stérilité, mais on ne peut pas dire que la fistule entraîne la stérilité. Une femme qui est bien suivie, bien traitée, qui a suivi une réparation chirurgicale de qualité, qui a été suivie pendant les 6 mois qui suivent et qui a suivi les recommandations de son médecin, je crois que dans les 2 ans qui suivent, elle peut retrouver la vie qu'elle menait avant et concevoir à nouveau.
Alors, une femme peut vivre avec une fistule pendant combien d'années, surtout dans notre pays où la prise en charge est parfois difficile?
Mais la plupart des cas qu'on reçoit, ce sont des femmes qui ont vécu avec la fistule pendant plusieurs années, qui n'avaient pas accès à des soins pour une réparation chirurgicale. Mmh. Donc nous avons des femmes qui viennent même avec des fistules de plus de 20 ans.
Avec toute cette souffrance,
oui,
pendant 20 ans.
Oui, avec toute cette souffrance. Et elles viennent avec des complications qui s'en sont suivies et on assure la prise en charge. Donc il y a des femmes qui sont dans des coins reculés, qui n'ont aucun accès aux soins et qui vivent avec cette fistule pendant plusieurs années.
Et quelles sont les autres complications qui peuvent survenir à des suites d'une fistule?
En ce qui concerne les complications des suites d'une fistule, nous avons les complications sur le plan médical, qui sont entre autres suite à cet écoulement permanent d'urine au quotidien. Nous avons des infections urinaires à répétition, des infections génitales à répétition, et puis nous avons aussi des lésions au niveau vulvaire, des lésions au niveau de la peau sur les membres inférieurs et nous avons tous ces troubles psychologiques qui s'en suivent. Et ces infections urinaires génitales à répétition peuvent entraîner d'autres maladies chez la femme et voire même des problèmes d'adhésion et conduire aussi à une stérilité secondaire. Bon, nous avons aussi sur le plan social, nous avons cette stigmatisation,
ouais,
ce rejet, et ce qui entraîne des problèmes, des troubles psychologiques chez la femme, ce rejet-là, cet isolement,
ça peut conduire à une sorte de
discrimination
de folie
et tout. Oui, elle peut devenir folle, elle peut faire une dépression,
ouais,
elle peut. Donc ça entraîne plusieurs troubles sur le plan psychosocial. Donc cette femme nécessite vraiment un accompagnement, une assistance psychologique et un traitement adéquat au niveau des structures médicales.
Alors nous retenons que l'UNFPA et les partenaires lancent chaque année une campagne de réparation des fistules obstétricales à travers le pays. Pour cette année, vous avez dit, vous irez dans 13 provinces,
oui,
et 1500 femmes seront réparées.
Mm-hmm.
Alors, ce week-end, vous organisez une soirée des galas, des récoltes des fonds. Comment est-ce que ça va se passer? Pouvez-vous nous donner les détails?
Oui. En ce qui concerne la soirée des galas, nous avons cette soirée a été organisée en partenariat avec l'ambassade du Canada et de la Tunisie et sous le parrainage de la première dame de la République démocratique du Congo.
Mmh.
Et nous avons des invitations qui ont déjà été lancées
à certaines personnalités
bien sûr
qui seront présents
voilà, lors de la soirée de gala.
Oui.
Et il y aura une levée de fonds. Bien sûr, il y aura des présentations, il y aura des animations, il y aura des témoignages de ces femmes qui ont survivantes de la fistule obstétricale.
Mmh.
Et une situation générale du pays sera aussi présentée lors de cette soirée de gala. Et à la fin, nous aurons une levée de fonds. Et chacun va contribuer pour la prise en charge d'un cas ou de plusieurs cas. Mais pour tous ceux qui ne peuvent pas, tout le monde ne peut pas venir à la gala. Donc pour tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne seront pas présents au gala, qui sont interpellés et qui veulent contribuer à redonner le sourire à toutes ces femmes, ils peuvent contribuer via le numéro M-Pesa qui a été ouvert par Vodacom, qui est le numéro 08 351.
08-351.
Ce numéro M-Pesa peut permettre à ces personnes de bonne volonté qui sont
partout où elles se retrouvent dans le pays.
Oui, ils peuvent contribuer par ce numéro.
Et pour les personnes qui sont à l'étranger qui nous écoutent, comment peuvent-elles
Pour les personnes qui sont... Il y a un compte qui a été ouvert.
D'accord.
Mais je n'ai pas encore le numéro. On pourra le communiquer à Radio Capi qui va le communiquer à lors d'une émission.
Bien sûr.
Et ça peut aussi aider à faire une levée de fonds aussi.
Au niveau international. On va accueillir Jonas de Fungurume. Nicolas nous appelle de Mbujimaï. Nous parlons de l'élimination de la fistule obstétricale en République démocratique du Congo. Jonas, bonjour.
Bonjour à Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Fungurume. Quelle est votre préoccupation?
Ok, je salue aussi l'invité du jour en passant. J'ai quelques préoccupations ou en quelque sorte des questions. Je veux savoir comment, en ce qui concerne l'éradication de la fistule chez la femme, est-ce que ce problème-là est un problème de santé simple ou c'est un problème de santé publique? Pour être éclairé un peu sur ça, en quelque sorte encore, savoir... des causes de suicide, mais aussi à part les causes, avoir aussi des facteurs favorisants du suicide chez la femme. Pour autre, je vais parler de la consultation prénatale. Et là, je ne sais pas comment me préciser le nombre de consultations prénatales. Est-ce que ça a un cause ou c'est un facteur favorisant? C'est une cause, je dirais, c'est une cause ou c'est un facteur favorisant. À part ça, j'ai voulu aussi savoir par rapport à la politique de l'UNFPI dans cette éradication de la fistule de la France et la collaboration avec la zone de santé, y a-t-il déjà une politique établie pour faire les suivis hebdomadaires ou mensuels en visant comme on fait les suivis épidémiologiques? Y a une politique établie dans ces zones touchées pour faire les suivis de ces cas? Merci encore, je vais vouloir... Juste un petit informatif, à titre informatif, quelle est la relation de cause à effet qui produit des conséquences sur la femme qui utilise beaucoup les parolins pendant la grossesse? Parce qu'il y a en partie la CPN, je pense quelquefois on expliquerait que non, la prise des parolins, je ne sais pas si vous avez l'idée, mais ce qui dit,
pendant
la grossesse, quand l'impact.
Oui.
Allô?
D'accord. Merci. On a retenu vos différentes préoccupations. On va accueillir Nicolas de Mbujimaï. Bonjour.
Au revoir.
Nicolas, vous êtes à Mbujimaï. Bonjour.
Je dis bonjour aussi à l'invité.
Nous parlons de la fistule, l'élimination de la fistule obstétricale en RDC. Quelle est votre question?
J'ai deux questions, mais avant tout, j'avais une petite observation à faire.
Laquelle?
Alors, c'est qu'on remarque que la première grossesse chez la femme, c'est vraiment prise en haute considération. Tout est mobilisé, et la CPN est suivie graduellement et trimestriellement et pour éviter les risques de certaines maladies telles que nous venons de l'employer. Mais nous regrettons d'autres femmes, de deuxième grossesse, troisième grossesse, elles se disent déjà expérimentées, elles négligent la CPN et parfois même jusqu'à la fin de la grossesse, elle n'est pas parvenue au CPN. C'est pourquoi d'autres fois, il y a certaines maladies pareilles. Alors c'est pourquoi je voulais demander à l'invité, est-ce que cette maladie est-elle contagieuse? Est-ce qu'elle est sexuellement aussi contagieuse? Et aussi, dans les programmes de la consultation prénatale, est-ce que c'est prévu certains conseils à donner aux mamans pour éviter cette maladie. Et la dernière préoccupation était de savoir quels sont les remèdes ou les conseils que vous pouvez donner aux mamans, de sorte qu'il y ait assez de diminution à cette maladie, parce que le bilan risque de s'alourdir dans les jours à venir. C'est juste ça. Ma préoccupation.
Merci Nicolas de Mbujimaï. Alors j'invite toutes les femmes et les jeunes filles qui nous écoutent en ce moment, partout où vous êtes en République démocratique du Congo, même en dehors de nos frontières, n'attendez pas les dernières minutes, appelez pour participer, pour poser vos questions à l'invité, composez le 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Docteur Abeti Binanda, vous avez suivi les deux questions. Bon, Jonas a posé plusieurs questions. Différence entre santé publique, santé de, bon, ça c'est pas notre sujet du jour. Il veut, si vous pouvez rappeler les causes de la fistule, et il pose aussi une question sur les facteurs favorisants.
Oui, la fistule obstétricale est un réel problème de santé publique. Vous l'avez dit vous-même, par an nous avons environ 5000 à 7000 nouveaux cas de fistules obstétricales.
Et la plupart, c'est un problème de santé publique.
Oui, et la plupart de ces femmes n'ont pas accès à une prise en charge qui leur permette de retrouver leur vie d'avant. Donc ce sont des femmes laissées abandonnées à elles-mêmes, qui ne savent pas où trouver les soins, parce qu'elles n'ont pas accès à ces formations sanitaires qui offrent ces services. Et il faut savoir que ces formations sont insuffisantes aussi
à
travers le pays. Il y a certaines provinces qui n'ont même pas des formations sanitaires qui offrent ce paquet-là pour la prise en charge des complications.
Alors qu'est-ce qu'il faut
Et pour la prise en charge des fistules.
Docteur,
donc c'est un réel problème de santé publique que nous devons gérer. Oui. Donc pour parvenir à prendre en charge toutes ces femmes, il faudrait que ces services de réparation chirurgicale de ces femmes soient implantés dans toutes les provinces, au moins dans tous les hôpitaux généraux de référence. Il faudrait renforcer les capacités techniques des équipes qui peuvent offrir ces services au niveau de ces formations sanitaires. Il faudrait donner les équipements et le matériel nécessaires au niveau de ces formations sanitaires pour offrir ce service. Mmh. Il faudrait organiser l'assistance psychologique de ces femmes dans toutes ces formations sanitaires. Il faudrait aussi travailler en collaboration avec des ONG, des ONG ou bien la société civile qui est en place pour la réinsertion socio-économique de ces femmes. Ce sont des femmes qui ont été rejetées, qui n'ont plus rien sur le plan économique et tout. Après une réparation chirurgicale, après qu'elle soit déclarée guérie, il faut organiser sa réinsertion socio-économique. Et oui, et l'UNIFIA apporte aussi un appui.
Un appui financier.
Et travaille avec certaines ONG pour
leur permettre de lancer des activités génératrices de revenus.
Pour cette réinsertion socio-économique, avoir des activités génératrices de revenus et leur permettre de devenir autonomes sur le plan financier.
Les facteurs favorisant les fistules.
Oui, comme je l'ai dit, les facteurs favorisants, nous en avons de trois ordres. Nous avons, premièrement, le non-accès aux formations sanitaires qui offrent le paquet complet et adéquat pour la prise en charge des complications obstétricales. Mmh. Et dedans, nous incluons le personnel qualifié qui sont les sages-femmes et les obstétriciens. Et nous avons
Des formations? L'UNFP organise des formations pour ces personnels-là à travers le pays.
Oui, à travers le pays. UNFPA renforce les capacités de sages-femmes. Elle a tout un programme en ce qui concerne les sages-femmes pour leur formation de base, leur formation en cours d'emploi et pour l'appui à l'association des sages-femmes.
Mais les besoins sont énormes tout de même.
Oui. Et l'UNIFPA offre aussi un paquet pour la formation des médecins qui sont dans ces différentes structures pour renforcer leur capacité technique dans la prise en charge des complications obstétricales. Oui, et une FPA offre aussi les équipements et le matériel adéquat à ces différentes structures pour la prise en charge de ces complications obstétricales. Oui. Nous avons aussi comme deuxième facteur la non-utilisation des services de planification familiale. C'est vrai qu'on a, encore des zones qui n'ont pas de services de planification familiale disponibles. Mais l'UNIFPA travaille avec le gouvernement pour rendre disponibles ces différents services à travers tout le pays. Et la non-utilisation des services de planification familiale, surtout chez les adolescentes, peuvent entraîner des grossesses non désirées qui peuvent conduire aussi à l'apparition d'une fistule chez une...
Chez une adolescente,
parce que chez ces filles, ses voies génitales ne sont pas encore,
n'ont pas encore
atteint la maturation pour accueillir le développement d'un bébé. Et suite à cette immaturation, cela peut conduire à un accouchement difficile et prolongé qui conduit à une fistule obstétricale. Et pour ces jeunes filles qui sont déjà en activité sexuelle, pour éviter cela, il faut qu'elles utilisent des méthodes de planification familiale. Cela leur permettrait d'éviter d'avoir une grossesse non désirée et de continuer leurs études et ne pas tomber dans cette situation qui est très néfaste
pour elle. Parce que si elle a une fistule, elle a des urines qui coulent à tout moment.
Elle ne sait pas aller à l'école. Elle ne sait plus aller à l'école. Mmh. Elle est marginalisée et reléguée en dehors du village ou bien de la communauté et elle ne sait plus rien faire.
Bien, on va accueillir Pierrot de Lubumbashi et Georges de Manono avant de répondre aux questions. On va bientôt terminer cet entretien. Pierrot, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, il y a beaucoup de jours que je ne passe pas sur votre émission. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Capitale de l'Occitanie.
Voilà, aujourd'hui vous avez l'occasion de passer dans cette émission et de poser la question. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport aux fistules obstétricales?
J'aimerais aussi ajouter quelque chose parce que je suis parmi ceux-là qui ont eu la chance de faire une formation avec l'hôpital Page de Bukavu.
Oui.
Présentement, je suis en Lubumbashi, mais je suis loin de suivre ceux qui ont dit qui ont cité le CPM. Parce que moi, je dis que si nous citons que les femmes, nous devons la meilleure façon de lutter contre les fistules médicaux et les fistules obstétricaux, c'est de partir d'abord dans le CPM. Moi, je trouve qu'on n'aura pas la meilleure solution pour lutter contre ça. Pourquoi? Parce que si vous remarquez ici à Lubumbashi où nous vivons, la plupart des hôpitaux sont des hôpitaux, on peut dire, privés. Alors, dans des hôpitaux privés, si vous voyez la politique de notre pays, il n'y a pas même de suivi d'inspection, il n'y a pas les hôpitaux-là ne sont pas appuyés. Alors comment les gens auront à bénéficier des formations de temps en autre? Or, parmi les causes que la dame n'a pas citées, je vous dis, il y a des fistules qui sont causées par le personnel soignant en pratiquant les accouchements. Mais si elle n'est pas d'accord avec moi, je vais la dire, la prouver que dans des provinces réguinées, il y a des accouchements qui continuent à se faire par des instruments tels que les ventouses, forceps. Parfois, il y a des déchirures qui se font sans protéger le périnée. Or, là aussi, ce sont des causes de fistules obstétricales.
Voilà, Pierrot n'est plus en ligne, il y a une coupure. Désolé, on ne sait plus continuer, mais on a quand même retenu sa préoccupation. Georges, on va accueillir Georges de Manono. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à notre invité. Alors, j'aimerais demander à notre invité si la naissance d'un gros bébé peut-elle occasionner la fistule obstétricale. Et la deuxième préoccupation, j'aimerais d'abord partir d'un exemple. Madame, est-ce que vraiment les personnels médicaux peuvent aussi occasionner ce fléau? Je vous donne un exemple. J'étais parti dans un centre de santé comme ça que je me réserve de citer les noms. On était arrivé avec la femme, maintenant elle voulait mettre au monde. Alors, les infirmiers voulaient aussi aller faire des vaccinations. Vous savez déjà, ils font la routine parfois des vaccinations. Ils se précipitaient pour aller faire la vaccination. Mais là, on a constaté que les sages-femmes qui étaient là faisaient les tout pour qu'il y ait la naissance de l'enfant. Donc, elles utilisaient des moyens forcés, la femme à s'asseoir sur elle, sur le ventre. Tantôt, on devait introduire de n'importe quoi, des choses que je ne sais pas dire. Alors, on a constaté qu'après la naissance, la femme là n'est pas forte. Et cela aussi, madame, ça ne peut pas occasionner, donc ça ne peut pas occasionner cette maladie-là. Voilà tout, madame.
Bien, merci Fabrice. Vous êtes à Kamina. Bonjour.
Bonjour, bonjour la radio, Capi, bonjour.
Quelle est votre préoccupation, Fabrice?
Oui, vraiment, ce que nous voulons demander à notre invité, c'est que de savoir si, par exemple, cette formation, que ça ne puisse plus se matérialiser seulement dans des grandes villes et ignorer qu'il y a aussi de petites villes telles que la nôtre ici, la province de Kamina, dans la ville-province ici, nous sommes en difficulté. Nos hôpitaux, les femmes sages, ne sont pas formés, donc ça ne se passe comme ça actuellement. Nous demandons à notre invité, est-ce cette formation sera partout dans deux villes ou c'est une formation qui se limitera seulement que dans des grandes villes.
Fabrice, il ne s'agit pas d'une formation, nous parlons plutôt d'une campagne pour l'élimination de la fistule obstétricale en RDC lancée par l'UNFPA, le gouvernement et ainsi que d'autres partenaires. C'est une campagne annuelle, voilà, et des réparations, voilà, ou des femmes qui souffrent des fistules. Et cette année, cette campagne va se dérouler dans 13 provinces et 1500 femmes seront réparées.
Oui, ça sera déroulé dans 13 provinces.
Oui.
Alors voilà que nous pouvons aussi demander à l'invité si ça peut se dérouler dans toutes les provinces, qu'il n'y ait plus de provinces ciblées. Parce que si vous avez ciblé ces provinces et si nous poursuivons cette ciblation, nous allons nous rendre compte qu'ils ont ciblé que des provinces là où il y a des grandes villes. Mais dans des provinces telles que la nôtre ici, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ciblé.
D'accord.
Tant que nous vivons dans des difficultés à travers ce qu'ils viennent de soulever. Voilà que nous lui demandons. Si on est en train de cibler, qu'on cible aussi partout. Qu'on ne puisse pas cibler seulement là où on voit qu'il y a...
D'accord, merci Fabrice. L'invité a noté votre préoccupation. Docteur Abetti, vous avez la parole.
Oui. Merci. Je continue avec les questions qui ont été posées.
Oui,
il y avait une personne qui demandait s'il y a une politique de suivi
hebdomadaire
des cas, dans
les zones touchées.
Dans les cas qui ont bénéficié d'une réparation chirurgicale. Je peux dire que oui. Et le ministère de la Santé, avec l'appui de l'UNFPA, a élaboré sa stratégie nationale de lutte d'élimination de la fistule obstétricale. Et dans cette stratégie, tous ces éléments ont été pris en compte et le suivi des cas se fait bel et bien. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes parce que les prestataires doivent être vraiment outillés et aussi des problèmes lorsque la femme est prise en charge dans une ville et qu'elle doit rentrer dans sa zone d'origine. Donc cela occasionne un peu des difficultés pour son suivi si le médecin de sa zone n'a pas été formé et ne s'est pas assuré le suivi du cas qui a bénéficié d'une réparation de la fistule obstétricale.
Mmh.
Ensuite, je crois que quelqu'un a demandé si c'est une maladie contagieuse. Non, la fistule obstétricale n'est pas une maladie infectieuse, elle n'est pas une maladie contagieuse. C'est une pathologie non infectieuse qui intervient suite à
un accouchement difficile.
Oui, une mauvaise prise en charge d'un accouchement difficile et prolongé.
Mais on a appris, j'ai suivi tout à l'heure qu'il y a des sages-femmes lors du travail, de l'accouchement, elles viennent s'asseoir sur le ventre de la femme enceinte pour pousser les bébés, pour exercer la pression.
J'y arrive. J'ai bien dit au début que la fistule obstétricale est due à un accouchement difficile, prolongé, qu'on appelle dystocie, qui est réalisé sans l'assistance d'un personnel qualifié. Et parmi ces personnels qualifiés, ce n'est pas tout le personnel qui est qualifié pour faire dans ce domaine.
Mmh.
Nous avons les sages-femmes qui sont bien formées, les réelles sages-femmes qui ont un diplôme de sage-femme. Ce sont ces cette catégorie professionnelle qui sont outillées pour assister l'accouchement. Nous avons les médecins obstétriciens, les gynécologues obstétriciens, qui peuvent aussi, qui sont des personnels qualifiés pour l'assistance de l'accouchement. Mmh. Et nous avons aussi les médecins généralistes qui sont bien formés. Parce que nous avons aussi des médecins généralistes qui commettent des erreurs graves dans nos formations sanitaires. Donc il faut qu'il y ait une formation en cours d'emploi qui l'outille pour assurer cette assistance et aussi prendre en charge correctement.
Donc, les personnels les complications, non formés peuvent aussi être à la base de la formation
des tissus. Prendre en charge correctement les complications obstétricales. Donc, je peux confirmer que les prestataires non qualifiés dans le domaine peuvent occasionner la survenue d'une fistule par une mauvaise prise en charge, une mauvaise assistance lors de l'accouchement.
Voilà, on est arrivé presque à la fin de cette émission, docteur Abeti. Alors, allez-y rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, pour notre dernier intervenant. Pouvez... Oui. Pour le dernier
Kamina,
intervenant.
Il veut que... vrai,
nous avons la vision de l'UNFPA d'ici 2020 et d'atteindre, de couvrir toutes les 26 provinces par les campagnes de réparation de la fistule obstétricale. Mais nous y allons par progressivement.
Voilà.
C'est vrai. Nous avons dit que les ressources sont insuffisantes. Il faut mobiliser.
C'est pour cela d'ailleurs que vous organisez ce week-end une soirée des galas.
Et quand on mobilise, on ne peut pas couvrir toutes les 26 provinces à la fois.
Oui,
donc on
possible.
Y va progressivement. Et je crois que Kamina peut faire l'objet d'une campagne l'année prochaine. On verra bien. S'ils ont beaucoup de cas, ils peuvent nous transmettre les rapports et on verra.
Et cette année, vous avez la liste des 13 provinces qui seront...
Cette année, nous allons au Kasaï central,
oui.
Nous allons au Kasaï oriental, le Kasaï, nous avons la province de la Tchopo, Ouélé, Ba-Ouélé, Tanganyika, Lualaba. Nous avons le Nord Kivu, le Sud Kivu, nous avons le Maniema, nous avons également l'Ituri, et nous avons le Bas-Ouélé, le Sud Ubangi et le Nord Ubangi et la province ville de Kinshasa.
Bien, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous vous disons, docteur Abeti Vilanda, merci. Je rappelle que vous êtes chargé des programmes santé de la reproduction à l'UNFPA. Vous étiez notre invité aujourd'hui pour parler de l'élimination de la fistule obstétricale en République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.